Nous sommes
Simon,
Julie,
Laurent,
Anne,
Patrick,
Laura,
Roland,
Pauline,
Laurent.
Et vous écoutez Ça va le faire, le podcast d'Oxfam Magazine du Monde.
Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable.
Nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives qui nous interrogent et nous donnent l'envie d'agir.
Épisode 8, les enjeux d'un commerce alternatif, rencontre avec des leaders du commerce équitable. Nous sommes Pauline et Laura et nous travaillons chez Oxfam Magasin du Monde. L'été dernier, avec une délégation de bénévoles et de salariés d'Oxfam, on est parti à Berlin pour le sommet international du commerce équitable. Cet événement était organisé par la WFTO, l'Organisation mondiale du commerce équitable.
Pendant 3 jours, de nombreux acteurs du commerce équitable se sont rencontrés et ont échangé sur les enjeux actuels et l'avenir du secteur. C'est le plus gros rassemblement d'organisations du commerce équitable au monde. De quoi nourrir nos têtes et notre micro.
Avec Laura, qui s'occupe du suivi et des relations avec nos partenaires, on a saisi cette opportunité pour recueillir les témoignages des représentants et représentantes de 3 de ces organisations.
On a donc rencontré Meetu Dam, la fondatrice de MKS en Inde.
I am Meetu Dam from MKS Export Limited.
Luis Heller, un des directeurs d'Alpa au Pérou.
¿Qué tal? Mi nombre es Luis Heller. Yo trabajo en una organización de comercio justo que es Alpa.
Et Revita Shrestha, qui venait juste de prendre la direction d'ACP au Népal.
Hello, I'm Revita Shrestha. I'm from Nepal.
On pourrait se mettre dans cette salle. Elle a l'air calme.
Ouais, parfait. J'installe le micro là. Voilà.
Et on est prête, je pense.
Attends, mais avant de se lancer, si on devait résumer ce qu'on voulait comprendre avec eux là, à travers ces interviews, toi, tu dirais quoi ?
Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces noms, ces acronymes qu'on peut lire sur les étiquettes des produits qu'on trouve dans les magasins du monde Oxfam ? Ça ressemble à quoi, une organisation qui fait du commerce autrement ? Qu'est-ce que c'est, une entreprise équitable, responsable, démocratique, durable, transparente ?
Ok, en fait, ce qu'on veut partager à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est qu'en ce moment en Europe, il y a beaucoup de débats autour de la responsabilité des entreprises et des mesures à prendre pour qu'elles protègent les droits humains et l'environnement.
On vous propose donc de vous emmener rencontrer des chefs d'entreprise qui sont déjà sur ce chemin depuis des années. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ?
Oui !
Yeah !
Les 3 organisations, ALPA, ACP, MKS, ont été fondées il y a plusieurs décennies et travaillent avec Oxfam Magasin du Monde depuis de nombreuses années.
Allez, c'est parti pour une remontée dans le temps.
Revita nous raconte ses débuts chez ACP il y a 24 ans. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Quand j'ai commencé chez ACP, je n'avais aucune idée de ce qu'était le commerce équitable. Et je pense que personne au Népal ne savait vraiment non plus ce que c'était. ACP était une organisation qui voulait faire des activités à but social, ciblées pour les femmes des communautés locales. J'ai rejoint cette organisation. Et un mois après que j'ai commencé, on avait besoin de femmes dans la section tricot. On voulait embaucher 50 personnes, donc on a publié une annonce et 300 personnes ont postulé. Pendant 10 jours, nous avons conduit des entretiens approfondis avec environ 25 à 30 femmes par jour. Et à la fin de cette période, j'ai réalisé que je n'aurais jamais pu imaginer les conditions de vie réelles de ces femmes qui étaient dans des situations de grande vulnérabilité. Je me suis dit que je risquais de faire une dépression et j'ai pensé, non, essayons. Si je peux contribuer à faire ne serait-ce qu'une petite différence pour une ou deux artisanes, pourquoi ne pas essayer pendant quelques années ? C'était il y a 24 ans et je suis restée. Ensuite, on a demandé à Luis de nous en dire plus sur l'histoire d'ALPA.
ALPA est une organisation fondée il y a 37 ans. Elle a été fondée par 2 femmes, Maria del Carmen et Nelly, qui dirigent encore aujourd'hui l'organisation. L'un des principes clés d'ALPA est que son activité doit profiter aux artisans et artisanes et à leurs familles, afin qu'ils et elles bénéficient d'une vie meilleure. Même si ALPA est une entreprise privée, ce n'est pas une ONG. Par ailleurs, dire qu'il s'agit d'une organisation exportatrice donne une vision trop restrictive de ce que fait ALPA. ALPA travaille aussi avec des producteurs et productrices qui travaillent le textile, essentiellement l'alpaga, mais aussi la céramique, la fabrication de miroirs, le bois, les bijoux en argent. Nous faisons aussi des créations de mode en alpaga et nous avons commencé avec le coton, le coton biologique.
Enfin, c'est au tour de MeToo. Avant de fonder MKS, MeToo a travaillé à la structuration d'une chaîne de production équitable, depuis le cocon de soie jusqu'à l'écharpe.
Quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que les fournisseurs et les artisans n'étaient pas conscients de l'origine de leurs produits, qu'ils ne pensaient pas au prix qu'ils recevaient pour leur travail. Ils pensaient que les matières premières venaient à eux comme ça. Évidemment, il était important qu'ils parviennent à vendre leurs produits et qu'ils soient de qualité, mais ils ne se souciaient pas du prix de l'achat des matières ni du prix de revente de leurs produits. Et ce n'est pas comme ça que je souhaitais travailler. Je n'étais pas habituée à cela. Sauf que nous avions si peu de temps que je n'avais pas d'autre choix que d'acheter les matières premières sur le marché conventionnel. Mon expérience était plutôt de travailler avec des collectifs de producteurs. Plus tard, comme j'étais dans la région de Murshidabad, célèbre pour le tissage de soie au Bengale, j'ai commencé à aller voir des gens qui cultivaient le verre à soie et à les accompagner. À partir de là, j'ai commencé à créer une société, puis j'ai organisé deux groupes de tisserands et j'ai créé cette première chaîne de production. Les verres à soie viennent de la région de Malda. Vous savez, dans toutes ces régions, on peut trouver partout des cocons de couleur dorée. Alors à partir de là, j'ai commencé à aller à chaque endroit et j'ai essayé de les convaincre de travailler ensemble, de ne pas travailler seul, parce que ça allait les renforcer et que c'était plus facile pour nous. Quand nous avons créé le magasin, nous avons donc commencé à acheter chez eux et ensuite nous avons fait l'impression des tissus directement. Historiquement, on comprend donc que toutes ces organisations sont motivées par une mission sociale qu'on peut résumer ainsi. La volonté d'améliorer les conditions de vie des communautés et de permettre à des artisans et à des artisanes de vivre décemment de leur travail. Ainsi, ACP se concentre sur l'émancipation des femmes via l'accompagnement de groupes de production indépendants.
On a toujours pensé que l'empouvoirment économique était crucial pour l'émancipation des femmes. Sans être économiquement indépendante, vous ne pouvez pas vous faire entendre.
Pour atteindre sa mission sociale, ACP a choisi un modèle entrepreneurial.
Donc nous avons créé ce système où nous proposons en quelque sorte un centre d'incubation pour les artisanes. Nous leur fournissons les matières premières. Nous les accompagnons dans la conception des produits, nous les aidons à acquérir le savoir-faire technique, l'expertise technique. Tout artisane qui souhaite créer un groupe est libre de le faire, il lui suffit de rassembler des femmes autour d'elle. Nous leur fournissons alors les matières premières et tout ce dont elles ont besoin pour commencer. Et une fois qu'elles sont en confiance, elles avancent de manière autonome. Aujourd'hui, nous avons environ 20 à 25 groupes qui sont très indépendants.
Il se trouve que MKS et Alpa ont aussi un statut d'entreprise privée pour assurer leurs activités. On leur a demandé pourquoi elles ont fait ce choix de modèle et de statut.
Because it is actually we started as a society.
On a commencé en tant qu'entreprise avec les producteurs et les artisans, et ensuite on a réalisé qu'il y avait un problème technique au niveau des statuts d'entreprise. En Inde, ce statut rendait difficile la redistribution des profits, donc on est passé à une société à responsabilité limitée. Au sein de MKS, je ne détiens que 53% des parts. Le reste appartient aux personnes qui travaillent dans l'organisation et aussi aux personnes qui travaillent pour nous, comme les producteurs, par exemple. J'ai pensé que c'était une bonne chose que nos membres puissent sentir qu'ils sont aussi propriétaires de l'entreprise. Ce ne sont pas seulement des travailleurs ou des employés. Il s'agit juste d'une conversion d'entreprise pour donner à tous nos membres ce sentiment d'appartenance. Quel que soit le profit que nous réalisons, il est distribué à chacun d'entre eux, à tous les gens qui travaillent avec nous. Je viens juste travailler pour eux, car ils savent que c'est leur entreprise, donc elle est par eux et pour eux, par les gens, pour les gens.
Donc Alpa a été créée comme une entreprise commerciale, puis elle a commencé à exporter vers des organisations de commerce équitable. Elle privilégie l'exportation parce qu'au Pérou, la vente d'objets artisanaux ne rapporte pas beaucoup d'argent aux personnes qui les produisent. L'exportation a permis d'augmenter les revenus d'Alpa et des artisans et artisanes. Depuis toujours, nous promouvons l'innovation dans le design et les processus de production. Les statuts précisent qu'ALPA est une entreprise privée, mais nous avons aussi une mission sociale.
Pero lo que hace es con una misión social.
Dans le cas d'ACP et de MKS, il s'agit d'une association ou d'une fondation secondée par une entreprise qui gère l'activité commerciale. Ces structures d'entreprises bicéphales sont communes dans le commerce équitable.
Dans un contexte économique en constante évolution et marqué par une grande concurrence, nous voulions en savoir plus sur les spécificités de ces organisations. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont encore debout aujourd'hui ? Que les artisans et artisanes travaillent de manière pérenne avec elles ? Et qu'est-ce qui les différencie d'entreprises conventionnelles ? ACP évolue dans l'économie d'un des pays les plus pauvres du monde. Si ACP a été une des entreprises pionnières dans l'artisanat du feutre au Népal, il existe désormais beaucoup de concurrents sur ce marché. Malgré tout, les artisanes témoignent d'une confiance et d'une loyauté vis-à-vis d'ACP, et Revita nous explique pourquoi. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de fournir un travail régulier à nos artisanes, nous leur disons « Nous sommes désolés, nous ne sommes pas en mesure de fournir du travail parce que nous n'avons pas assez de commandes, mais vous pouvez approcher un tel ou un tel dans le marché conventionnel. » Elles répondent que le paiement est un vrai problème sur le marché conventionnel. Elles disent « Nous devons faire le suivi tant de fois pour obtenir notre paie. Nous préférons presque ne pas travailler, même s'il n'y a pas de commande d'ACP, plutôt que de se mettre dans une position où nous avons l'impression de mendier pour notre paiement. » Nous entendons beaucoup d'histoires comme celle-ci de la part des artisanes. C'est une situation difficile, mais tôt ou tard, les entreprises changeront, je l'espère. Cela crée une certaine pression, car nous sentons que nous avons une responsabilité vis-à-vis des groupes d'artisanes, même si nous souhaiterions qu'elles ne dépendent pas que de nous. Et en même temps, nous savons qu'elles nous ont donné leur confiance, donc on se sent responsable. Chez MKS, MeToo nous fait part d'un constat similaire. Les groupes d'artisans et d'artisanes de MKS ont tellement d'avantages par rapport aux entreprises conventionnelles qu'ils et elles ne veulent plus partir de MKS. Elle ajoute aussi autre chose.
Ce qui est bien à MKS, c'est que les personnes qui y travaillent ont accès à tous les documents, les processus, les budgets. Nous sommes très transparents. C'est très clair pour tous nos membres. Je n'ai pas besoin d'être là tout le temps. Si vous partagez tout avec eux, ils savent ce qu'il se passe. Avec ma pension qui arrive, ils doivent comprendre ces enjeux. Nous n'avons pas de prêt bancaire, nous n'avons rien qui nous lie à des dettes. Nous sommes très indépendants parce que je suis très stricte financièrement. Maintenant, je leur enseigne comment gérer les finances et c'est donc la raison pour laquelle, même après avoir fait des pertes pendant 2 ans, MKS est toujours debout.
Retournons voir du côté d'ALPA. Quelle est la spécificité de la relation entre l'entreprise et les artisanes et artisans ?
C'est une question importante. Pour nous, toujours,
alors, c'est une question importante pour nous. Dans ce type de travail d'artisanat, ALPA est plutôt concentré sur la conception et l'innovation, mais laisse une marge de manœuvre créative aux artisanes et artisans. Pour nous, l'important est que ces produits soient vendus. Quand les artisanes et artisans ont des idées sur le produit, on les respecte. Ils et elles s'impliquent dans le développement de produits. Tous les ateliers avec lesquels nous travaillons sont indépendants d'ALPA. Par exemple, nous leur disons que nous voulons fabriquer cette couverture et nous travaillons avec eux tout au long du processus de fabrication. On ne leur dit pas « voilà, nous payerons ceci », mais plutôt « combien souhaitez-vous facturer vos produits ?» Et dans cette optique, on leur fournit un coaching adapté. Nous sommes des exportateurs, mais pas que. Nous les appuyons donc en les formant à la gestion afin qu'ils puissent accéder aux revenus qu'ils méritent. Nous les formons à de nouvelles techniques que je qualifierais de modernes sur l'amélioration de la production tout en continuant à faire du travail artisanal.
On note ici la confiance des artisans et artisanes dans ces 3 organisations, ou disons plutôt le manque de confiance dont elles témoignent envers les entreprises conventionnelles. C'est un point fort des organisations de commerce équitable et une illustration directe et concrète du fait que ces organisations travaillent pour leurs membres, leur bien-être et ne cherchent pas à exploiter leurs travailleurs.
Les défis de ces dernières années, notamment la pandémie de Covid-19, ont mis ces modèles à rude épreuve et testé leur capacité de résilience.
La pérennité de l'entreprise est le principal défi pour nous aujourd'hui.
Revita nous raconte qu'ACP a beaucoup souffert de la pandémie de la Covid-19. ACP a dû fermer pendant 101 jours en 2020 et 80 jours en 2021.
Cela a été une période très très difficile pour nous. Nous n'avions pas de trésorerie suffisante parce que nous n'avons pas pu produire, nous n'avons pas pu expédier de marchandises et nous avons donc des stocks qui se sont accumulés. Comme nous manquions de liquidités, nous avons dû nous tourner vers des donateurs pour nous maintenir à flot parce que pendant le confinement, nous avons payé à tous nos employés 50% de leur salaire. Nous ne pouvions pas payer le salaire complet, mais nous sommes heureux d'avoir pu au moins payer 50%, ce qui signifie beaucoup pour eux.
Alpa fait beaucoup de ventes en ligne, donc l'organisation a moins souffert que ACP pendant la pandémie. En revanche, la continuité des commandes reste un enjeu pour les organisations de commerce équitable, comme en témoigne Louis.
Nous devons nous battre pour continuer à avoir des commandes régulières et ainsi avoir du travail pour nos ateliers et pour l'équipe. C'est cette continuité qui est importante. C'est aussi une question liée au thème du salaire de subsistance, du salaire équitable. Le salaire équitable est lié aux commandes. Parce qu'en fonction de la fréquence des commandes, vous pouvez payer un salaire équitable pendant un mois ou quelques mois, mais que se passe-t-il le reste de l'année ? Nous devons donc nous battre pour obtenir des commandes régulières. L'enjeu n'est pas tant de dire quel mauvais client, il ne m'a pas passé assez de commandes, mais plus de voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que nos produits soient mieux mis en avant chez nos distributeurs. Ce n'est pas seulement le sens social qui est très important, bien sûr, mais aussi le fait qu'il s'agisse d'un beau design et d'un produit de qualité. C'est un marché dans lequel il faut aussi savoir suivre les tendances.
On en parlait au début de ce podcast. Les organisations de commerce équitable sont avant tout des entreprises à but social. Se pose alors la question de l'impact de leur travail. Après des décennies d'engagement, Revita et MeToo ont de quoi nous répondre. Chez MKS, MeToo nous raconte comment l'entreprise a su accueillir, former et intégrer une jeune femme en situation de handicap.
Dans notre équipe, au rez-de-chaussée, pour les emballages de produits, nous avons 5 femmes, dont une d'entre elles est en situation de handicap. Lorsqu'elle a rejoint l'équipe, elle ne pouvait pas venir seule. Elle devait venir avec sa mère tous les jours, qui l'emmenait à notre bureau. Et j'ai donc commencé à demander aux équipes de lui apprendre comment voir le numéro de bus, comment prendre le bus, et maintenant, elle peut voyager toute seule. C'est un grand changement. Malheureusement, son père étant décédé il y a quelques années, elle est maintenant la chef de famille, et c'est elle qui ramène les revenus de la famille. Elle a pris énormément confiance en elle, vous devriez voir ça. Quand elle a commencé, elle ne pouvait quasiment rien faire. Elle avait eu la polio et elle avait beaucoup de difficultés à réaliser des tâches liées à l'emballage des produits. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a appris des compétences en fonction de ce qu'elle était capable de faire avec sa paralysie de la main. Elle s'occupe maintenant des emballages de produits légers. Le changement a été incroyable. Et maintenant, elle peut s'occuper de sa famille et elle a un métier. Et ceci n'est qu'un seul exemple. J'en aurai tant d'autres à vous raconter.
Revita, elle, partage les changements qu'elle a constatés chez les femmes artisanes qui travaillent chez ACP. Pendant ces 24 ans chez ACP, j'ai pu observer les changements qui se sont opérés parmi ces femmes que j'avais interviewées au tout début de ma carrière. J'ai vu comme elles sont passées d'attitudes plutôt timides à celles de femmes capables d'exprimer leur opinion à l'oral, comme à l'écrit, et même de se battre pour leurs droits. Elles sont capables de négocier et elles n'hésitent pas à le faire. C'est une réussite, une vraie satisfaction. Je pense que c'est l'impact de ce que nous faisons. C'est ce que nous voulions voir, des femmes qui défendent leurs droits, qui ont une voix, et nous sommes heureux d'avoir été associés à cette organisation.
Dans cet épisode, nous vous avons emmené à la découverte des enjeux et des réalités de nos partenaires de commerce équitable, des artisans et artisanes qui constituent les premiers maillons de nos chaînes d'approvisionnement. Mais elle ne serait pas complète sans les bénévoles qui, chaque jour, mettent en valeur et promeuvent les produits dans les magasins du monde Oxfam. On a demandé à Revita, Mitou et Louis s'ils et elles avaient un message à leur transmettre.
Because of you, we are there.
Je tiens à vous remercier pour ce que vous faites, car nous sommes en mesure d'apporter des changements dans la vie des artisanes. Sans votre soutien, nous n'aurions pas été en mesure d'avoir un tel impact sur la vie des femmes de notre pays, et nous vous en sommes très reconnaissants.
Je souhaite d'abord remercier tous les membres de votre mouvement et vos bénévoles pour votre travail formidable. Et je tiens à souligner que vous étiez les premiers à penser à développer des produits éco-conçus. Et maintenant, les autres acheteurs suivent. Donc un grand merci à tout le monde.
C'est une question de continuité. Et je pense qu'il y a un lien entre tous les maillons de la chaîne de production jusqu'aux bénévoles. Je pense que nous devons leur donner des outils de compréhension de ce que font ALPA et les autres organisations pour remplir leur mission. L'objectif de la mission est clair. Comment l'atteindre, c'est autre chose. Mais je pense que si les bénévoles ont des informations sur ce que nous faisons, sur notre travail, eh bien, je pense que cela les aidera et que cela leur donnera plus d'énergie. Il faut aussi considérer que les bénévoles ont leur propre expérience. La question du changement climatique n'est pas une question sud, c'est une question mondiale. Je pense que vous avez un mouvement de bénévoles très actif, ils vont sur Internet, ils se renseignent. Vous avez vécu l'été le plus chaud, le plus sec en Europe. Alors je pense que le message est que nous sommes liés. Nous sommes tous impactés par les problèmes du monde. Les changements climatiques, politiques, économiques. Alors travaillons ensemble avec le même objectif.
Quand on passe la porte d'un magasin Oxfam, on trouve plus que des produits. On y trouve des entreprises modernes dont la majorité sont dirigées par des femmes et animées depuis leur début par des missions sociales et environnementales. On y trouve aussi des personnes qui s'engagent depuis des années pour un commerce plus juste, plus humain, à travers lequel les droits fondamentaux et la planète sont respectés. Bah, je sais pas ce que t'en penses, Laura, mais moi je suis assez impressionnée par ces interviews. Hein. Quelle personnalité, là, tous les trois.
Oui, c'est inspirant et ça donne envie de continuer à se battre pour que le commerce équitable devienne la norme et plus l'exception.
Ça tombe bien parce que c'est le moment pour se mobiliser en ce moment.
Je te vois venir, Pauline. Tu vas me parler du devoir de vigilance.
À fond. Parce que c'est l'outil législatif le plus puissant qu'on ait entre nos mains maintenant. D'ici février 2024, on espère bien que l'Union européenne aura un texte ambitieux pour favoriser un terrain de jeu économique plus égalitaire.
C'est-à-dire contraindre les grandes entreprises à respecter les droits humains et la planète ?
C'est exactement ça. Bon, allez, on y va, parce que sinon on va être en retard pour la mobilisation devant l'ambassade de l'UE.
Il ne nous reste plus qu'à remercier chaleureusement Revita, Louis et Mitou pour leur temps précieux et pour la richesse de nos échanges.
Nous tenons également à remercier chaleureusement Émilie pour son aide précieuse à l'écriture de cet épisode.
Ainsi que vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt.
Vous venez d'écouter Ça va le faire, produit par Oxfam Magazine du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagne. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, SoundCloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles.